France Inter.
Bonjour à tous, à la une de ce 13h, 15 000 Mahorais réfugiés dans des centres d'hébergement d'urgence. Mayotte en alerte rouge pour le passage de la tempête tropicale d'Ikeledi. Nous rejoindrons en direct notre envoyée spéciale à Mayotte, Béatrice Duguet. Également le maire de Mamoudzou, notre invité en direct dans un instant. Le sommet sur l'éducation des filles à Islamabad, la prix Nobel de la paix Malala Yousafzai appelle les dirigeants musulmans à ne pas donner de légitimité aux talibans d'Afghanistan. Nous irons à Séoul où les services de renseignement participent à l'interrogatoire des deux soldats nord-coréens capturés jeudi par l'armée ukrainienne. Premier coup de raquette à l'US Open de tennis d'Australie et ça passe pour les Français Arthur Fils, Hugo Gaston et à l'instant ça passe aussi pour Hugo Humbert. Enfin, nous nous intéresserons au Veganuary, version vegan du mois sans alcool. Le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, 8 départements sont en vigilance grand froid dans le sud du Massif central et plus au sud encore, eh bien c'est du soleil.
Oui, avec du vent, soleil aussi près de l'Atlantique et le flanc est. Le ciel va rester bien gris pour les autres.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. À Mayotte, des maisons prennent l'eau, encore une fois, et des terrains regorgent d'eau, encore une fois. Mayotte battue par les pluies, le vent, la tempête tropicale d'Ikeledi, qui est en train de passer au sud de l'archipel. Nous rejoignons tout de suite notre envoyée spéciale, Béatrice Duguet. Bonjour Béatrice.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes dans la commune de Kungu, au nord de Mamoudzou. Le vent souffle, il pleut donc énormément depuis l'aube. Décrivez-nous ce que vous voyez autour de vous.
Alors en fait, il fait gris, il fait sombre, la mer moutonne beaucoup là-bas, et puis le vent malmène tout, il fait un boucan d'enfer, à vrai dire, parce qu'il secoue les tours, les portes, les clôtures, les palmiers. Ouais, en bas de notre logement, dans le bidonville, malgré tout, nous entendons quand même parfois des coups de marteau sur les toits, preuve que tout le monde n'est pas à l'abri. Sinon, c'est en fait dans le sud que la situation semble la plus délicate en ce début d'après-midi mahorais. Le village de Mbouini, par exemple, le seul qui a été épargné par Chido à Mayotte, est inondé. La ravine qu'il traverse, comme beaucoup, était à sec hier encore. Elle ressemble à présent à un torrent. Ça n'est pas le seul endroit dans le sud, malheureusement. Cette tempête d'Ikeledi, on ne le dirait pas, mais elle est en train de s'éloigner, sauf qu'elle va impacter l'île encore toute cette journée. Marée haute en plus, vers 15h30, ça veut dire que l'eau des ravines ne va pas pouvoir s'évacuer et que le risque d'inondation est accru sur l'ouest de l'île. Si la pluie devrait un peu se calmer, les vents, eux, sont en train de tourner. Ils semblent redoubler en ce moment. Ça souffle effectivement très fort. Cela jusqu'en fin de journée, le temps de faire des dégâts, hélas, Eric.
Certains Mahorais, Béatrice, ont préféré s'abriter, parfois nombreux d'ailleurs, dans des maisons voisines en dur, plutôt que d'aller se déplacer jusqu'à un centre d'hébergement.
Oui, ces abris sont précaires et je pense à ces familles, effectivement, femmes, enfants qui se sont réfugiés dans une maison en construction qui est en face de là où nous habitons. Alors certes, les murs protègent du vent, mais pas de la pluie, les étages sont inondés, les occupants n'ont plus la possibilité de s'asseoir. Par exemple, ils vont devoir passer toute la journée, une partie de la nuit debout. C'est compliqué avec des femmes et des enfants, c'est compliqué pour tous ces jeunes enfants, les pieds dans l'eau.
Et on entend derrière vous, Béatrice, effectivement, le vent taper dans ce qui semble être des plaques de tôle. Merci beaucoup de ce témoignage, Béatrice Duguet, à Kungu, donc au nord de Mamoudzou, avec les moyens techniques de Fabien Gosset. Nous sommes en ligne à présent avec le maire de Mamoudzou. Bonjour Amdil Waïdou Somaïla.
Bonjour, bonjour à tous.
Situation beaucoup plus délicate dans le sud de l'île, vient de dire notre envoyée spéciale Béatrice Duguet. Quelles informations avez-vous du sud ?
Effectivement, tout à l'heure, il y a à peu près 2 heures, les pompiers qui faisaient le tour de la commune chef-lieu de Mayotte nous ont rapporté que dans la suite, c'était extrêmement délicat. Un certain nombre de villages, Pasikeli, Mbouini, comme l'a dit votre consoeur, donc c'est des villages où il y a carrément des maisons inondées, voire même 1 mètre d'eau dans les maisons. Donc une situation extrêmement délicate, oui, pour les habitants du sud de Mayotte.
Et à l'heure où l'on se parle, quels sont les principaux risques? Risque d'éboulement, par exemple?
Pour tout ce qui est les bidonvilles, oui, naturellement, c'est un risque qui est là, qui est palpable. Donc que des bidonvilles cèdent, parce que comme vous le savez, c'est souvent dans des zones on va dire assez reculées, sur des quasiment des collines parfois, donc le risque il est très très élevé. Maintenant aussi dans les maisons d'habitation on va dire classiques, où les riverains, les propriétaires n'ont pas pu rebâcher, mettre hors d'eau leur maison, ben, la difficulté qui, par rapport au témoignage qui a été là tout à l'heure, c'est que des familles, quasiment toutes les maisons sont aujourd'hui pleines d'eau et c'est une complication complémentaire.
Et ceux qui habitent près des ravines, est-ce qu'ils ont pris conscience de la montée des eaux et des risques très dangereux de l'éventuelle montée des eaux en ravine ?
Oui, je pense que contrairement à ce qui s'est passé il y a une vingtaine de jours avec Chido, il y a eu une grosse prise de conscience sur tous les plans. Quand nous avons, par exemple, pour ce qui est de Mamoudzou, dès que nous avons dit que les centres vont ouvrir à partir de 18h, il y avait déjà la queue à 17h devant nos douzaines de centres d'hébergement d'urgence que nous avons ouverts. Lors de Chido, la veille, quand nous avons comptabilisé, on était à 3500 entre la veille et le lendemain matin. Et ici, avec cette tempête, on était quasiment 6300 personnes, donc quasiment le double.
L'une des différences avec le cyclone Chido il y a un mois, c'est que le cyclone avait été très très violent sur un laps de temps assez court, alors qu'en ce moment, les fortes précipitations que vous subissez risquent de durer bien plus longtemps. Comment vous y êtes-vous préparé ?
C'est toujours compliqué dans ce moment-là de se préparer quand vous avez des milliers de maisons où il n'y a pas du tout de toit. Nous n'avons pas pu avoir les bâches utiles et nécessaires pour pouvoir les distribuer aux habitants, pour pouvoir couvrir. C'est vrai qu'avec même les écoles qui avaient été couvertes, même les maisons qui avaient pu être couvertes aussi, avec le vent qui est passé, quasiment toutes les bâches ont été emportées. Voilà, maintenant, le vrai sujet aujourd'hui, c'est que on a beaucoup de pluie, mais qui dure dans le temps et qui fait que la population est aujourd'hui vraiment très désemparée.
Merci. Un mot, oui ou non, est-ce que les ouvertures des écoles auront lieu demain ?
Non, pour le moment, ça ne sera pas ouvert pour demain. On va continuer à y travailler juste pour d'ici le 20 janvier prochain.
Merci beaucoup, Amdil Waïdou Soumaïla, le maire de Mamoudzou. En direct de Mayotte donc. Selon le Rassemblement National, plus aucun Algérien ne doit être accueilli en France tant que l'Algérie ne reprendra pas ses brebis galeuses. Injonction ce matin du député et porte-parole du RN, Julien Odoul, alors que l'influenceur algérien surnommé Doualem, qui avait publié une vidéo litigieuse, a été expulsé jeudi par Paris, aussitôt renvoyé vers la France. Il a déposé d'ailleurs un recours à l'étude en ce moment, ce dimanche, recours contre son placement en centre de rétention. Le groupe LR ira-t-il jusqu'à voter une motion de censure contre le gouvernement Bayrou ? Ce matin, dans le Parisien dimanche, le président du Sénat, Gérard Larcher, affirme ne vouloir ni suspension ni abrogation de la réforme des retraites. C'est une épine de plus dans la chaussure du Premier ministre qui cherche au contraire un accord sur ce sujet avec la gauche. Eh bien, sur ce dossier des retraites, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, n'est pas opposée à arrêter la réforme pour en rediscuter. Elle ne désespère pas d'ailleurs de remettre tout le monde autour de la table.
Si il faut arrêter pour rediscuter avec un cycle très court de discussion, moi je n'y suis pas opposée par principe. Ça aurait été une réforme parfaite. Eh bien, j'aurais dit ni abrogation ni suspension. Mais on voit bien, on en parle souvent, pénibilité, retraite des femmes, etc. Elle n'est pas parfaite. Et donc, si nous pouvons aujourd'hui nous mettre autour d'une table tous les acteurs concernés pour discuter de ces sujets, eh bien, c'est d'utilité publique.
Et sur la mesure d'âge, dans la presse ce matin, on comprend que François Bayrou, le Premier ministre, hésite à éventuellement bouger ce curseur. Est-ce qu'on peut revenir sur l'âge de 64 ans ?
Moi, je n'y suis pas favorable. Il fallait que l'on fasse cette réforme et qu'on prenne cette mesure d'âge. Après, cette mesure d'âge pose un énorme problème d'emploi des seniors. À partir de 55 ans, nous avons un taux d'emploi des seniors qui est absolument catastrophique par rapport à nos voisins. Vous voyez, il faut vraiment que tous, on se réattaque à ces sujets-là.
Yael Braun-Pivet, il y a quelques minutes sur France Inter avec Karine Bécart dans l'émission Questions politiques. Et au Parti Socialiste, Olivier Faure dit ce matin attendre de François Bayrou qu'il prononce le mot suspension lors de sa déclaration de politique générale mardi prochain. Un mot qu'il attend et qui donnerait donc un peu plus de survie au Premier ministre. À Strasbourg, on ne sait toujours pas si l'accident entre deux tramways hier est dû à une défaillance technique ou bien à une erreur humaine. Le bilan définitif et de 68 blessés légers. Une enquête est ouverte pour blessures involontaires. À Rennes, un quinquagénaire a été touché par balle hier soir dans un quartier dit sensible. Son pronostic vital est engagé. Deux hommes à bord d'une voiture ont ouvert le feu sur la victime et un autre homme avec lui plus légèrement blessé. À Valence, ce sont deux policiers qui ont été blessés ce matin, dont l'un plus grièvement, alors qu'il tentait de stopper une voiture volée. Deux suspects ont été interpellés. Toutes les jeunes filles dans le monde n'ont pas encore accès à l'école. Eh bien, c'est l'objet du sommet qui se tient en ce moment à Islamabad. Un sommet où la Pakistanaise Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix, a appelé aujourd'hui les dirigeants musulmans à ne donner aucune légitimité aux talibans au pouvoir en Afghanistan. Depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, l'Afghanistan est effectivement le seul pays au monde où les filles et les femmes n'ont pas le droit d'aller ni à l'école secondaire ni à l'université, avec des conditions de vie très difficiles pour ces femmes. C'est ce que rappelle Camille Romain Desbeaux, elle est la directrice générale de l'ONG World Vision France.
La situation de millions de filles en Afghanistan, il faut le dire et le redire, est absolument terrible. Aujourd'hui, les filles ne peuvent pas aller donc à l'école secondaire et à l'université. Des jeunes filles qui n'auront que des rudiments de l'alphabétisation, qui privent de la possibilité de se former pour un travail, de choisir leur vie, d'être éduquées, ce qui est un droit fondamental pour chaque être humain, fille bien comprise. Nous avons une présence locale très forte auprès des familles, avec aujourd'hui beaucoup d'actions en termes de santé et en termes d'alimentation. Il faut avoir en tête qu'en Afghanistan, il y a eu énormément de catastrophes climatiques ces dernières années, donc à la fois sécheresse extrêmement forte, il y a eu également un tremblement de terre. Donc aujourd'hui, les familles sont dans des conditions extrêmement difficiles et on fait tout pour que les jeunes filles aient encore cet accès à l'éducation qui est essentiel.
Voilà, je précise que le gouvernement taliban a bien été convié à ce sommet sur l'éducation au Pakistan, mais aucun responsable afghan ne s'est déplacé. Le vent a repris de la vigueur à Los Angeles avec la crainte donc de nouvelles rafales dans les prochaines heures. Des secteurs jusque-là épargnés sont désormais aux proies des flammes. Des centaines de milliers de personnes ont été évacuées. Beaucoup ont tout perdu, comme dans cette banlieue de Los Angeles, quartier Altadena, où la solidarité s'organise. Les dons affluent de toutes parts. Reportage de Sandrine Etoa-Andegue et Laurent Macchietti.
L'atelier de poterie d'Altadena ressemble à un supermarché. Matt, un bénévole, décrit les rayons qui débordent. On a des tonnes de vêtements, des litres et des litres d'eau, des produits d'hygiène, des chaussures. Karen, la responsable, nous glisse. On va presque devoir empêcher les gens de donner. Là, on ne sait plus quoi faire de tout ça. C'est en tout cas une aide précieuse pour Johannes, venu les mains vides. Il repart avec une valise remplie de vêtements. Je me sens à la fois triste et confus, mais aussi tellement reconnaissant. Le soutien et la générosité de ces gens est extraordinaire. Un réconfort qui atténue un peu le traumatisme de ces derniers jours pour Janet. Les gens sont là pour nous qui n'avons pas eu le temps de prendre des affaires en quittant nos habitations. C'est extraordinaire toute cette solidarité. Les deux tiers de ma maison ont brûlé, il faut l'accepter et se dire que tout ira bien. Des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leur domicile. Des évacuations qui se poursuivent alors que les incendies repartent de plus belle.
Sandrine Etoa-Andegue, notre envoyée spéciale à Los Angeles. Les services de renseignement sud-coréens l'ont confirmé ce matin. Ils participent bien à l'interrogatoire des deux soldats nord-coréens capturés jeudi par l'armée ukrainienne dans la région russe de Koursk. Et selon Kiev, près de 11 000 nord-coréens ont été enrôlés sur le front aux côtés des forces russes. Mais leur mission dans ce conflit reste bien flou et l'interrogatoire donc de ces deux soldats pourrait permettre de préciser les choses. À Séoul, c'est Lio Fioretti.
Un interrogatoire mené par l'armée ukrainienne en coopération avec les services de renseignement sud-coréens. Toute information sur l'armée nord-coréenne serait évidemment un avantage pour la Corée du Sud, officiellement toujours en conflit avec son voisin au nord. D'après les renseignements, ces deux soldats étaient en possession de faux papiers russes, les faisant passer pour des militaires originaires de Touva, en Sibérie, afin de cacher l'implication de la Corée du Nord aux côtés des Russes. Eux-mêmes pensaient d'abord être en mission d'entraînement avant de réaliser qu'ils étaient sur le front. Sans nourriture depuis 4 à 5 jours, ils ont été capturés par les forces spéciales ukrainiennes. D'après les renseignements sud-coréens, près de 1000 soldats nord-coréens auraient été mis hors combat depuis novembre. Au mois de décembre, un autre soldat nord-coréen avait été capturé par l'armée ukrainienne, mais avait succombé à ses blessures avant d'avoir pu être interrogé. France Inter à Séoul, c'est Lio Fioretti.
Les Croates votent aujourd'hui pour élire leur président. C'est le second tour, un poste de président largement honorifique en Croatie. Et ce poste devrait rester aux mains du président sortant, le socialiste aux accents populistes Zoran Milanovic. Son portrait, brossé par notre correspondant à Zagreb, Louis Cellier.
Il est l'homme politique le plus populaire du pays de l'Adriatique et les analystes le surnomment souvent le Trump croate. Zoran Milanovic, 58 ans, devrait rempiler sans problème pour un deuxième mandat. Investi par le Parti social-démocrate, ce diplomate de carrière s'est transformé en un populiste imprévisible depuis son arrivée il y a 4 ans à la présidence de cette république parlementaire. Face aux multiples scandales qui éclaboussent le Parti conservateur au pouvoir depuis presque 30 ans, Milanovic se pose en pourfendeur d'un système jugé corrompu et clientéliste et il défend les laissés-pour-compte du boom touristique croate. Sa popularité, il l'a forgée à coups de sorties nationalistes et d'attaques outrancières contre les migrants ou les associations féministes, mais aussi contre l'OTAN et la politique étrangère du gouvernement conservateur. Ses adversaires l'accusent d'être un homme du Kremlin et de chercher à rapprocher le pays de la Russie. Si en Croatie, le président ne dispose pas de pouvoir exécutif, il est officiellement le chef des armées. Ce second mandat du président Milanovic devrait rendre plus imprévisible le soutien de la Croatie à l'Ukraine.
Le tennis avec la première journée de l'US Open d'Australie, c'est à Melbourne. 7 Français disputent leur premier tour. Il a d'ailleurs fallu jouer parfois entre les gouttes. Match interrompu, puis repris. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Alors ça passe pour Arthur Fils, ça passe pour Hugo Gaston. Et il y a quelques minutes également, qualification d'Hugo Humbert.
Oui, pour le deuxième tour, le Messin, 14e mondial et numéro 1 français, s'est débarrassé non sans mal. Il faut bien le reconnaître, d'un joueur issu des qualifications, l'Italien Matteo Gigante. 146e mondial, Hugo Humbert s'est imposé en 3-7, 7-6, 7-5, 6-4. Alors Hugo Humbert revient de loin quand même, parce qu'il a renversé deux situations compromises. Quand dans le tie-break du premier set, le Messin était mené 5 points à 2 et quand dans le deuxième set, Hugo Humbert était mené là 5 jeux à 2. Mais à chaque fois, il a trouvé les ressources pour revenir dans le match et finalement l'emporter en 3-7. Au deuxième tour, Hugo Humbert affrontera un autre joueur issu des qualifications, le Libanais Adi Habib, 219e joueur mondial. C'est terminé en revanche pour Lucas Pouille qui jouait sur le central, lui l'actuel 103e joueur mondial, battu par Alexander Zverev, le numéro 2 mondial, l'un des prétendants au titre. Lucas Pouille n'a pas démérité, il s'est incliné en 3-7, 3 fois 6-4, 6-4, 6-4, 6-4. Quant à Quentin Alice, il est actuellement sur le court numéro 3 opposé à Adam Walton, c'est un Australien 91e mondial, 2-7-1 en faveur de Walton. Attention, ce match est important parce que le vainqueur de ce match affrontera au prochain tour Arthur Fils.
Fabrice Abgral qui suit donc cette US Open de tennis d'Australie. Le Vendée Globe à 2 jours de l'arrivée prévue des deux leaders. Charlie Dalin maintient son avance sur Johan Richaume. L'écart n'est pas décisif, mais écart tout de même bien confortable. Sur le principe du Dry January, voici le Veganuary, un mois complet sans viande ou sans produits d'origine animale. C'est le défi que lance l'association de défense des animaux L214. Un exemple à Nice, avec cette chasse au trésor dans les boutiques et cafés-restaurants de Nice, donc, qui propose des produits végétaux. Reportage de Mélodie Vialet.
Oui, comme Marguerite, elle a encore quelques miettes à la commissure des lèvres. Elle a goûté un brownie 100% vegan. Verdict.
Il n'est pas sec du tout. Eh ben, c'est excellent.
Elle adore et à 75 ans, Marguerite, qui passe ici par hasard, elle n'est ni vegan, ni même végétarienne, mais elle a décidé de se lancer le défi Veganuary.
L'état d'esprit me plaît et on a des idées de recettes. On a tout, pourquoi ne pas le faire?
Et pendant un mois, tous les jours, Marguerite va recevoir des recettes avec des produits 100% vegan. Ça motive aussi son amie Valérie, en pleine dégustation de faux gras.
Vraiment très bon. Je ne fais pas la différence avec le vrai foie gras.
Valérie est déjà végétarienne, mais elle a envie envie d'aller plus loin.
Pour nos enfants, nos petits-enfants, d'arrêter avec d'utiliser les animaux. Ouais. Il faut dépoussiérer tout ça, je pense.
Et au-delà des motivations éthiques, le véganuari peut aussi être l'occasion de mieux manger. Marie est bénévole chez L214.
Donc par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes d'intolérance au lactose. C'est vrai qu'au niveau de la digestion, c'est assez impressionnant de voir ce qu'une alimentation végétale peut faire.
Mais pour certains comme Anne, cette mamie aux cheveux gris, c'est trop dur.
Je peux pas, vous savez, je le sens, je m'affaiblis complètement quand je mange pas de poulet. Je le sens, j'ai essayé, hein. J'aurais du mal à arrêter le poulet.
Et Anne n'est pas la seule. En France, selon l'IFOP, seules 200 000 personnes sont véganes.
Voilà, je reviens au tennis. J'ai parlé beaucoup de US Open d'Australie. Ça n'a pas de sens, vous avez bien rectifié. Il fallait comprendre l'Open de tennis d'Australie. Voici à présent le temps. Allons-y.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le soleil va gagner du terrain cet après-midi.
Ah oui, on le retrouve comme ce matin sur les régions les plus au sud et sur la façade atlantique, mais il gagne aussi la Bourgogne et l'Alsace. Ce soleil est accompagné d'un vent de nord soutenu sur un gros quart sud-est, avec des rafales qui pourraient atteindre quand même les 100 km à l'heure près de la Méditerranée. Puis on n'oublie pas le risque d'avalanche qui reste très élevé sur les Alpes du Nord. Du soleil, on en aura beaucoup moins cet après-midi sur le reste de la moitié nord où la grisaille persiste. On pourrait même avoir quelques nous on est sur la pointe nord.
Dans une ambiance encore bien froide. Hein.
Oui, les valeurs les plus froides sont pour le nord-est et le centre-est. 1 à 4 degrés, 3 à 8 degrés pour les autres. On est là sous les normales de saison. Jusqu'à 14 degrés près de la Méditerranée. Il n'y a que là qu'on sera à peu près dans les normales. Notez que les températures vont continuer à baisser le matin jusqu'à mardi, qui sera la journée la plus froide de la semaine prochaine.
C'était Céline Dacosta.